Bonsoir Nina Bouraoui.
Bonsoir.
Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue donc à la librairie Mola. Nous avons la chance, le plaisir d'accueillir Nina Bouraoui pour déjà son 15e roman.
Oui.
Donc nous sommes très heureux d'avoir sous les yeux ce nouveau roman, donc Beau Rivage. Et après donc le grand succès d'emblée de La Voyeuse Interdite, quand vous aviez 24 ans.
Oui.
Et puis d'autres succès à chaque fois, que ce soit chez Gallimard, chez Fayard, chez Stock ou bien maintenant chez Jean-Claude Lattès, pour jalonner tout ce beau parcours d'exploration littéraire et humaine. Il y a eu aussi Mes mauvaises pensées, je pense qu'on a tous été très marqués par ce roman-là. Enfin, ce roman, je ne sais pas s'il faut dire un roman.
On peut le dire quand même.
Voilà, en 2008.
2005.
Ah pardon. Donc avec Beau Rivage, eh bien, on est emporté, je dirais en pleine mer peut-être, ou très loin en tout cas justement du rivage, et peut-être au fond du gouffre, celui de l'amour et celui surtout de la rupture.
En fait, au fil des années, je me suis rendu compte que j'étais devenue un écrivain des sentiments. C'est pas un choix, ça s'est imposé à moi. Je ne sais pas si je le maîtrise, si je maîtrise cette case encore totalement, mais en tous les cas, disséquer, parler des sentiments qui nous traversent est un matériau littéraire sans fin, parce que je pense qu'il y a deux façons de vivre sa vie, soit comme un robot et faire usage de la vie de façon uniquement matériel et sans cœur, et ça je n'y crois absolument pas. Et je crois que ce qui est intéressant, puisque hélas nous sommes tous que de passage ici, c'est la variation et la multiplication des sentiments, de l'amour, du désir, d'un amour amoureux comme dans Beau Rivage, mais aussi d'un amour plus large qui relierait tous les êtres humains. Et c'est vrai que Beau Rivage est la radioscopie, est presque l'anatomie, presque le squelette du sentiment amoureux. T'as la médecin légiste, je le dis souvent, mais c'est vrai. J'ai reconstitué toutes les phases d'une séparation amoureuse, parce que je me suis aperçue que finalement, en tous les cas pour tous les grands amoureux et les grandes amoureuses, nous passions toujours par les mêmes phases. Il y avait une sorte d'unité. Ce thème-là est très banal, et c'est pour ça qu'il est très banal, le thème de la rupture amoureuse, parce que l'amour est d'une immense banalité, mais finalement d'une immense richesse, parce que même s'il y a des points communs, il y avait des façons d'aborder, moi je suis une grande passionnée d'Annie Ernaux qui a beaucoup parlé de la séparation, et j'ai voulu parler de la séparation à ma façon, avec en y introduisant le plus de poésie, le plus de proximité avec la vie. Voilà, je suis un écrivain des sentiments et donc un écrivain de la vie.
Vous êtes d'abord un écrivain, et quand on entre dans cette histoire, bien sûr banale, mais justement qui nous permet à tous de nous projeter dans le roman et qui est universelle, du coup, on voit tout de suite que c'est l'écriture qui va nous happer. C'est autant en tout cas que, bien sûr, l'analyse très très fine et très précise et presque impitoyable. Vous parlez de disséquer, mais voilà, on y va au scalpel. Et malgré ça, il y a beaucoup de poésie. Et c'est ce qui fait, je pense, l'originalité de votre roman, de votre écriture, c'est qu'elle est à la fois poétique et refusant la poésie, mais pas quand même poétique.
Mais c'est vrai, c'est un tableau noir éclairé de l'intérieur, comme les œuvres de Soulages. Oui. Et vous l'avez dit, moi j'ai commencé très jeune à être publiée, j'avais 24 ans, et j'ai toujours eu cette règle d'or, c'est d'avoir ma propre voix, de la travailler un maximum, parce que c'est un métier. Écrire n'est pas un hobby, n'est pas un passe-temps, c'est un métier d'artisanat, et on est toujours perfectible. Et de livre en livre, j'essaie d'atteindre la pureté d'une voix qui ne serait que la mienne, j'espère, en tous les cas reconnaissable. Et le style, puisque moi j'ai commencé à découvrir la littérature vraiment et à l'aimer, avec Marguerite Duras, alors on aime ou on n'aime pas, c'est très spécial, mais en tous les cas on la reconnaît. Et je me suis toujours dit, avec l'avalanche de livres, la littérature est si vaste et si infinie, si on doit en faire, c'est de façon particulière et y imposer son empreinte et sa marque particulière. Et c'est pour ça que l'écriture est très importante et que finalement, en effet, ce drame amoureux est banal, mais il est traité à ma façon.
Oui, et votre héroïne, donc, qui s'appelle A, oui. Elle refuse d'emblée la poésie, d'ailleurs, puisque le roman est écrit à la première personne. Alors, c'est aussi ça qui fait cette originalité de l'écriture, c'est qu'on a une analyse extrêmement, on dirait objective, en tout cas clinique, presque clinique, de toutes les phases de la souffrance de la rupture, et ça dure, et ça dure, et ça évolue, et puis il y a des rechutes, etc. C'est presque un documentaire, enfin, c'est une écriture très documentée, et en même temps, très subjective, puisqu'on a vraiment toujours l'impression d'être à l'intérieur de l'héroïne et de partager ou d'accompagner. Et puis, on voudrait bien l'aider, mais malheureusement, voilà, ça prend le temps que ça prendra. Il faudra traverser toutes les phases patiemment avant, à la fin, de voir quand même une réparation, en somme. Elle se répare elle-même.
Mais vous ne croyez pas si bien dire, parce que je pense que j'ai fait un travail presque de documentaire, puisque A existe, A n'est pas moi, même si l'histoire est peut-être revisitée aussi par mes propres séparations. Mais étant si proche d'A, qui est une sorte, je peux dire, de jumelle, plus que de sœur, frappée par un immense chagrin d'amour, et étant à proximité d'elle pratiquement tous les jours, l'écoutant, essayant de la relever de sa noyade, n'y arrivant pas toujours, parce que finalement, lorsqu'on est torpillé par un chagrin d'amour, vos amis ne comptent plus, même si on a besoin de vos amis, mais vous ne les entendez plus. Un chagrin d'amour, sa définition, c'est le changement de la temporalité. Chaque seconde, chaque minute est vouée à cette cruauté, est vouée à cette obsession. On le sait, la parole, le langage est important dans un chagrin d'amour, mais elle n'a pas de résonance. C'est-à-dire qu'on a beau parler, on n'entend pas les réponses à nos questions. On raconte toujours cette même légende, ce même roman d'amour qui vient de se briser, mais c'est très thérapeutique. Et moi, je crois que j'ai récupéré toutes les bribes de chagrin d'A et je les ai restituées avec un souci de vérité, même si ce livre n'est plus du tout de l'autofiction. Depuis Standard, je me suis écartée du travail que j'avais l'habitude de faire pour La Vie heureuse, Garçon manqué, Mes mauvaises pensées. J'ai voulu m'éloigner de moi pour élargir peut-être mon travail sur les sentiments, le rendre plus universel, passer par mon prisme, mais moi je suis cachée. Dans Beau Rivage, bien sûr, je suis là, il y a toujours mes obsessions, il y a mes peurs, mais je suis plus cachée que d'habitude, puisque ce n'est pas, une fois de plus, mon histoire.
Oui, il y a eu le virage de Standard où, justement, vous avez choisi un héros dans la crise économique et dans la misère sexuelle. Donc, c'est effectivement, vous êtes sortie.
Je suis sortie en donnant un grand coup de pied dans la porte, parce que je crois qu'il y a plusieurs phases, comme dans la peinture, comme dans la musique. Dans l'écriture, il y a plusieurs phases. Et j'ai quitté cette phase auto-fictionnelle que je vais rejoindre à nouveau, mais de façon beaucoup plus cachée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai compris que le jeu était multiple, que je pouvais employer le jeu. Au début, je me suis beaucoup demandé pour Beau Rivage si j'allais pas parler à la troisième personne, mais il y avait trop de distance. Et je crois que j'ai une telle proximité avec A que c'était très facile d'épouser son jeu, de l'épouser. La fusion était très simple, ne m'a posé aucun problème, parce que je la connais très bien. Mais aussi, le jeu, pour moi, était universel, parce que bizarrement, quand les hommes lisent ce livre, ils ne s'identifient pas au personnage d'Adriane, mais ils s'identifient à A. Et je voulais que ce soit une histoire, certes hétérosexuelle, mais qui aurait pu être homosexuelle, qui peut être entre deux hommes, entre deux femmes, parce que ça, j'y tiens beaucoup. Je crois que le chagrin d'amour est totalement universel et égal.
La souffrance d'amour.
Elle est égale pour tout le monde. Ça, j'en suis convaincue. Ouais.
Mais je trouve que l'effet est vraiment très fort, justement, d'avoir à la fois cette lucidité presque objective et cette subjectivité totale. Donc, il y a une espèce de tension qui vraiment renforce énormément la lecture et qui fait qu'à la fois, on est capable d'analyser toute cette souffrance et comment elle se déclenche et par quoi elle est perturbée, etc. Et en même temps, tout en l'analysant de l'extérieur, en somme, grâce à votre précision, on est dedans. Et voilà, et c'est un sentiment mélangé et très particulier qui accompagne notre lecture.
Oui, c'est un roman qui agit comme une contamination. C'est un roman contagieux. mais qui n'est pas nuisible, parce que je n'ai pas voulu larmoyant, souffreteux, je n'ai pas voulu de désespérance, je n'ai pas voulu non plus écrire un livre de haine, ni de vengeance. C'est un livre qui doit agir comme une lumière dans l'obscurité de quelqu'un. C'est un livre qui doit agir comme une veilleuse dans une chambre où il y a beaucoup de larmes. Pour moi, c'est un compagnon de déroute. Et je me suis rendu compte, qu'ayant moi-même eu de nombreux chagrins d'amour, hélas, que c'était la solitude, en fait, qui l'emportait. Lorsqu'on souffre d'amour, on est totalement axé sur son chagrin d'amour. Et même si on est très entouré, ou peu, ou en tous les cas, si on est entouré, on n'entend pas les autres, on n'entend plus le monde. Et donc, la littérature sert à ça aussi, à rentrer dans cette solitude et être une sorte de béquille, le temps de la lecture. Et puis, ce n'était pas par hasard aussi si le livre est... ça se déroule pendant des événements absolument tragiques et terribles, puisqu'il commence après les événements de Charlie l'hypercacher, et le livre s'achève avec le 13 novembre. C'était à la fois pour montrer que peut-être ce chagrin d'amour aurait été moindre si ce qui l'entourait n'avait pas été la tragédie et la violence et la barbarie que l'on connaît tous, mais aussi pour montrer que la vie est toujours plus forte. Et que finalement, quand les murs s'effondrent autour de nous, on a encore le droit de pleurer d'amour et d'avoir peut-être des larmes de crocodile. Pour moi, c'est la seule réponse à la vie, finalement.
Oui, oui, il y a une double catastrophe pour l'héroïne, puisque autour d'elle, donc, ce contexte parisien, puisqu'elle est parisienne. Certes, Adrian n'est pas parisien, il fait la navette donc, entre la Suisse et Paris. Et d'ailleurs, ça joue un rôle dans la manière dont ils vont se détacher finalement l'un de l'autre, en acceptant cette distance qui a pourtant nourri leur amour pendant 8 ans, grâce à cette tension de l'attente, des retrouvailles, de la séparation temporaire et de l'attente, etc. On sait très bien comment ça peut entretenir certaine fraîcheur.
Ils font partie de ces amoureux paradis particuliers, c'est-à-dire qui ont fait le choix de ne pas vivre dans la même ville, sous le même toit, parce qu'ils ont peur de l'ennui, ils ont la peur de la fuite du désir, mais ils se voient quand même au moins 3 fois par semaine. C'était une idée aussi assez romantique du transport amoureux, prendre un train pour retrouver l'autre, prendre des avions ensemble et se retrouver à l'étranger, finalement plus comme 2 étrangers, mais égalité quand on est à l'étranger, fuir le temps assassin, fuir les habitudes assassines, et finalement se donner l'illusion que l'amour dure toujours. Mais est-ce que l'amour dure toujours ? Je l'espère, mais parfois je crains que non. Ou alors il faut être... l'amour après est une panoplie peut-être de compromis et d'acceptation. Mais ils restent fous amoureux, ils se désirent toujours jusqu'au dernier jour. Et c'est pour ça que c'est une double trahison pour l'héroïne. Parce que quand on ne partage pas la même géographie, il y a une sorte de contrat de confiance, puisque l'autre, on ne peut pas le surveiller non plus tous les soirs. Mais c'était aussi très beau parce que c'était un couple héroïque qui passait les années tout en ne partageant pas la même maison, peut-être en attisant la curiosité des autres, mais eux avaient construit ainsi leur histoire. Et elle a au moins duré 8 ans, ce qui est déjà pas mal.
Oui, paraît-il, puisqu'on sait qu'en général, les histoires d'amour durent 3 ans.
C'est ce qu'on dit. Je crois que l'hypnose amoureuse dure 3 mois. Enfin, moi, je suis encore plus pessimiste que vous, mais je crois que le temps est parfois... Mais les amours se transforment aussi. Ça, j'aime bien cette idée. Oui.
Alors, je ne sais pas comment vous avez construit le roman, mais en tout cas, à la lecture, justement, le temps est très présent. On a vraiment le sentiment du temps. À la fois la fuite du temps, la fuite de l'amour, peut-être fatale, mais aussi l'atroce durée de la souffrance. Oui. On le ressent bien à la lecture. Et donc, il y a certainement un art de la composition. Donc, dites-nous un petit peu comment vous avez construit.
Je vais livrer mes secrets. En fait, c'était assez simple parce que dans la vie réelle, Adrian et A se sont quittés, en effet, 7 jours après les attentats de Charlie. Et A a retrouvé l'espoir et la lumière. Autour du 13 novembre. Donc, c'était franchement, quand je dis un travail de documentariste, ça c'est vrai. C'est vrai qu'il suffisait de regarder et de récolter. Si je reviens aussi à cette période des attentats, je n'ai pas voulu du tout m'apesantir parce que je ne suis ni une intellectuelle ni une historienne et le but n'était pas là. Mais prendre ce segment-là, pour moi, c'était ma seule manière de témoigner, habitant à deux rues du Bataclan, étant parisienne, ayant été frappée, non en première ligne, mais peut-être en deuxième ligne, parce qu'on avait toujours des amis d'amis qui étaient blessés ou qui ont perdu la vie pendant ces attentats. Il était très important de témoigner, sans m'apesantir. Mais en tous les cas, voilà, le temps a commencé comme ça. Il s'est inséré ainsi et j'ai construit vraiment... entre ces événements-là qui sont tragiques, mais c'était une façon aussi de leur répondre parce que moi, après les attentats, je n'ai plus voulu écrire, plus rien ne m'intéressait, tout me semblait vain, dérisoire, impudique. L'écriture me semblait très impudique, je ne sais pas pourquoi, c'était peut-être une réaction très humaine, mais je crois qu'avec la proximité de tant de tragédies, notre présence au monde tout d'un coup était compliquée, notre présence à cette ville, à Paris que j'aime tellement, et tout d'un coup à ce bond en arrière que j'ai fait puisque je suis moitié algérienne, tout d'un coup je me suis retrouvée dans les années 90 quand mon premier pays ou mon deuxième pays, je ne sais pas comment les placer les deux, je les aime tous les deux, était plongé dans ces années noires et l'Algérie était un pays bien seul, bien isolé, ravagé par la sauvagerie, par la violence, et j'ai fait un bond en arrière terrible, et pour moi il fallait vraiment inscrire, voilà, le temps dans la construction, c'était important. Et puis après, le temps de la souffrance. Et comme je le disais, c'est vrai que la cruauté, elle remplit toutes les secondes, toutes les nuits, surtout la nuit, elle est compliquée. Et puis le temps du corps aussi, ne plus manger, ne plus dormir, ne plus rire. Seul son travail va la sauver. En plus, elle est voix off, donc on sait que par la voix passent les sentiments. Donc c'est le seul instant où entre deux prises, lorsqu'elle double notamment Nigella, la célèbre cuisinière londonienne sulfureuse, c'est ça qui va la sauver en fait, son travail va la sauver. Mais c'est vrai que je crois que le temps de la souffrance, on dit que le premier mois est épouvantable, le deuxième est pas mal aussi, mais les grandes amours se réparent en deux ans. Donc, mais les trois premiers mois sont très durs et j'ai vraiment pris voilà, les mois... à peu près de janvier à novembre, c'est-à-dire les mois du champ de bataille. Mais elle va mieux en juin. Le soleil réapparaît en juin. Parce que c'était important aussi de se dire que l'amour se reconstruit toujours, qu'un cœur brisé peut se recoudre, toujours. Parce que quand la vie est là, je crois que l'amour est toujours pas très loin.
Et est-ce qu'on voit aussi, d'une part, une réflexion sur toutes les facettes de l'amour dans ce roman ? Très très fine et très qui va vraiment jusqu'où on peut aller dans tous les domaines et aussi la souffrance, c'est-à-dire qu'elle va vraiment très très profond, enfin elle coule et elle coule avec courage, on pourrait dire, c'est-à-dire qu'elle va tout vivre de sa souffrance pour pouvoir justement en renaître, en remonter.
J'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui tombent, pour les gens qui sombrent. J'ai beaucoup de tendresse pour les fragiles. Je suis plutôt du côté des vaincus que des vainqueurs. Et j'ai beaucoup d'admiration sur le système de défense qu'on peut mettre en place quand, à un moment donné, justement, on se noie. Et c'est pour ça que ce livre a toujours un rapport avec la nage, avec la noyade et avec les rivages, et qui deviennent beaux, parce que ces beaux rivages sont des sentiments qui sont certes baignés d'ombre, mais aussi baignés de lumière. Et je trouve toujours très beau le courage des humains, le courage des femmes, le courage des hommes qui tentent de se relever, mais qui n'ont pas peur de tomber et de sombrer. Donc ça, c'était y a quelque chose de très héroïque chez cette héroïne qui va tomber très loin en elle-même, mais qui va finir quand même par se relever.
Voilà, c'est une combattante. Quand j'ai vu le titre, moi, j'ai pensé à Phèdre, Ariane, ma sœur, de quel amour blessé, vous mourûtes au bord, vous fûtes laissée. Et puis finalement, non, d'ailleurs, dans l'histoire de la mythologie, Ariane ne meurt pas, ce qui est quand même très agréable à savoir. Mais on s'aperçoit effectivement que ce titre nous emporte aussi dans une poésie de l'amour, dans une poésie de la souffrance amoureuse et de la renaissance qui apporte évidemment un intérêt supplémentaire à ce roman. Et dans ce parcours, finalement, le tournant, je trouve, c'est quand elle est capable, alors qu'elle a été quittée et sans explication, il a fallu après qu'elle traverse et la jalousie et tout ça. Mais le jour où elle lui dit « je te quitte », »,« tu m'as quitté, d'accord, mais aujourd'hui, c'est moi qui te quitte ». Alors là, on peut penser que, voilà, à partir de là, il y a quand même un grand tournant dans l'histoire, dans le roman.
Oui, c'est ce qu'elle nomme l'opération Hiroshima.
C'est ça. Encore Marguerite Duras.
Voilà, toujours, évidemment. Et puis, puis tout simplement la bombe. En fait, parce que dans cette histoire-là, il y a une troisième personne. Une troisième personne
on
qui est tapie, qui
parlé,
est touchée. Voilà. Et qui est la rivale. Et cette rivale va tenir un blog. Donc, ce n'était pas du tout la volonté d'écrire un roman moderne. D'ailleurs, je ne sais pas ce que veut dire la modernité. C'est quelque chose qui m'échappe. Mais en tous les cas, Internet fait partie de notre vie de tous les jours depuis de nombreuses années. Les progrès technologiques sont sublimes et dévastateurs. Sublimes parce qu'ils nous permettent de gagner du temps et dévastateurs parce qu'ils ont changé nos façons, certes, de nous rencontrer, mais aussi de nous quitter. C'est-à-dire qu'avant, on attendait un message sur un répondeur, on attendait une lettre. Avant, on avait le droit à l'espérance, le droit au silence des larmes, le droit à l'inconnu, le droit à l'anonymat. Aujourd'hui, la souffrance est devenue publique, donc dangereuse. Et cette personne va persécuter l'héroïne qui ne va pas déjà très bien, et qui va lui donner comme ça quotidiennement par son blog des images, elle, de son nouveau couple, de celui voilà, qu'elle forme avec Adriane, qu'elle a perdu. Donc c'est une double peine, c'est une double souffrance, et puis c'est cette addiction, pourquoi ce qui nous fait mal, nous ne pouvons pas nous en séparer, parce que c'est très addictif. La souffrance est très addictive. Donc ça, c'était important. Et puis donc l'héroïne, pour s'en sortir, va consulter un jour un médecin psychiatre qui lui explique que pour justement les psychiatres aujourd'hui, c'est très difficile de soigner la rupture amoureuse, d'engager un deuil de son histoire parce que ce qui demeurait avant irréel, écrit derrière un bureau, derrière un écran, dans une chambre en solitaire, devient encore plus réel que la réalité. C'est-à-dire qu'une image aujourd'hui a encore plus d'impact que ce qui est réel, ce qui est quand même assez hallucinant, kafkaïen, bizarre, étrange, malsain, cruel. Et cette psychiatre lui dit qu'il faut casser ce triangle absolument pour s'en sortir. Alors elle continuera à aller voir le blog, mais un jour, elle décide de ne plus donner de nouvelles à Adriane et elle lui dit qu'elle ne répondra plus à ses appels, plus à ses SMS. Mmh. C'est la seule façon de se sauver.
C'est le grand tournant du livre.
Oui, c'est vrai.
À mon avis. En tout cas, quand on le lit, on se sent déjà mieux le jour où elle est capable de renverser les choses et de lui dire « tu m'as quitté, mais maintenant, c'est moi qui te quitte ». Bon, elle reprend des forces à ce moment-là. Et ce qui est aussi très intéressant dans votre roman, c'est justement cette description justement des dangers des nouvelles technologies. Déjà, appelez-moi par mon prénom, vous montriez cette addiction à la messagerie électronique.
C'est vrai.
Et il y a évidemment, on peut dire que l'amour est une addiction, mais quand en plus il y a cette addiction au réseau virtuel, enfin à ce qu'on appelle virtuel, mais qui, comme vous le dites, est plus fort finalement que le réel, et surtout qui est ineffaçable.
C'est ça, la mémoire
est. On a du mal à se débarrasser. J'entendais ce matin sur France Culture une petite chronique sur justement les nouvelles technologies. Et il y a des gens, des hommes, enfin en l'occurrence c'est des hommes, mais je pense que ça pourrait être interchangeable, ça pourrait aussi être une manœuvre des femmes, et une manœuvre de séduction qui s'appelle les faux fails. C'est-à-dire on fait semblant d'avoir fait une erreur de destinataire et on envoie un message parlant donc de vous. Par erreur, c'est vous qui le recevez. En réalité, il n'y a pas d'autre destinataire, mais c'est un moyen de parler de celle qu'on veut séduire ou de celui qu'on veut séduire, évidemment en lui déclarant sa flamme, mais de manière détournée et malhonnête. Alors, ce qui m'a étonnée, c'est que le chroniqueur disait qu'il avait beaucoup d'admiration parce que ça montrait l'effort de séduction, etc. Et on peut y voir aussi beaucoup de perversité, quand même.
Oui, mais je crois que maintenant, on ne peut plus faire machine en arrière. Oui. Ça existe. Ce qui est compliqué, justement, dans un chagrin d'amour, c'est la part de soi qu'on a laissée à l'autre, qui vous a kidnappé, qu'on ne retrouvera plus parce que c'était la part qui a été, comme un champ de roses qu'on a cultivé à deux pendant l'histoire d'amour. Et puis on laisse sa parcelle, elle n'existe plus. Donc on est amputé de ça. Et je crois que, justement, Internet a rendu célèbres les choses les plus jolies, mais les plus épouvantables aussi. Et cette célébrité de quelques secondes, de quelques minutes, peut expliquer et explique, bien sûr, qu'il y a des enfants aujourd'hui qui se pendent dans leur chambre à cause d'Internet, oui. Qui explique que les chagrins d'amour sont plus longs à réparer, qui explique que nous nous quittons peut-être un peu plus vite que d'habitude, mais qui explique aussi que nous pouvons rencontrer des grandes amours. Moi, j'essaie toujours, je suis idéaliste et comme vous l'avez dit, moi, j'aime bien écrire de la poésie et je reste quand même très poétique. Et j'aime bien me dire que ces outils-là ne sont pas seulement mis au service du mal.
Oui, mais cette rivale, il faut quand même bien reconnaître qu'elle est très malveillante et elle harcèle. Ah,
c'est la méchante. C'est la méchante du livre.
C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le harcèlement numérique. Hein.
Oui, complètement. Oui, oui, c'est du harcèlement, c'est pervers. Elle aurait pu porter plainte. Mais bizarrement, elle a peur d'elle parce que Moi, je trouve qu'il y a presque une dimension de l'ordre de la magie noire. D'ailleurs, elle va dans les églises, elle allume des cierges, elle l'appelle au téléphone pour essayer d'apaiser parce qu'elle sent un pouvoir de dévastation, un pouvoir assez néfaste. Et quand on est très fragile et quand on est malheureux, on devient un petit peu paranoïaque.
Et puis elle est attirée par le gouffre aussi.
Et elle a peur. Et elle a peur que cette femme lui fasse du mal à distance. Donc, elle va essayer de l'apprivoiser. Et justement, elle lui dit cette phrase d'ailleurs qui était sur le bandeau, personne n'est protégé contre un chagrin d'amour, mais c'est vrai, personne.
Tout à fait, oui, ça touche effectivement tout le monde, à tous les âges, dans tous les milieux et de toutes les nationalités. Ce qui est intéressant également, c'est la manière dont ce n'est pas une psychanalyse, mais il y a quand même un parcours de retour aux sources, déjà de retour à la naissance de l'amour. Il y a par exemple la scène du Lutetia qui est très marquante. Et puis ce chagrin fait remonter, ou peut-être il trouve ses racines dans un chagrin d'enfance, dans un chagrin très ancien. Et cette peur de l'abandon qui finalement, évidemment, est ravivée par cette rupture subie.
Je crois que nous avons tous besoin d'être aimés. Nous avons tous besoin d'aimer. C'est ce qui nous construit, c'est ce qui nous élève, c'est ce qui nous instruit, c'est ce qui nous rend meilleurs. Et justement, à chagrin d'amour nous renvoie à nos abandons les plus antérieurs, les plus enfouis, les plus anciens. Nous renvoie à cette période totalement fantasmée lorsqu'on est un petit enfant et qu'on a peur de ne pas avoir été aimé ou désiré, attendu, et nous renvoie à nos premières ruptures, à l'origine de la rupture. C'est pour ça que c'est compliqué, parce qu'on est en régression. Lorsqu'on est quitté, on devient cet enfant démuni, tout nu, on devient le premier homme, la première femme, et elle va revisiter son passé. D'abord, premier chagrin inconsolable, la perte de son père lorsqu'elle a 22 ans, et puis après des fantasmes de disparition. Parce qu'un chagrin d'amour, je le disais, c'est cette disparition de ce trésor qu'on a donné à l'autre, de cette part de soi qu'on a donnée à l'autre et qu'on ne retrouvera plus. Et si on la récupère avec quelqu'un d'autre, ce sera jamais la même chose. C'est ça, en fait. C'est l'acceptation du vide, du néant, de la mort, de la perte. Ça, c'est très difficile. Hein. Pour quiconque, c'est très difficile. Ce n'est pas seulement l'odeur de l'autre, la voix de l'autre, la musique de l'autre. Ce n'est pas seulement la clé dans une serrure. Ce n'est pas seulement l'accompagnement. Ce n'est pas seulement la présence. Je crois que c'est beaucoup plus métaphysique que ça. Je crois que l'amour est... Je ne vais pas dire... Ce n'est pas de l'ordre de la transfiguration, mais moi, je me suis toujours dit que c'était ça qui nous élevait dans tous les sens de ce terme-là. Et que je suis toujours étonnée quand j'entends quelqu'un qui me dit « je n'ai jamais eu de chagrin d'amour », moi je crois qu'un chagrin d'amour est nécessaire, obligatoire, parce qu'il nous aide à tester nos capacités à résister ou pas, à se défendre ou pas, à se révolter ou pas. Il teste aussi la fidélité de nos amis, leur grande patience, parce que dans ces cas-là, nos amis sont très patients, les pauvres, parce que nous sommes obsessionnels, nous sommes en boucle, nous n'entendons pas. Et puis, l'amour, cet immense mystère, est finalement, oui, est d'une immense banalité, mais d'une immense importance, et d'autant plus aujourd'hui, où on a l'impression, de par Internet, que cet amour-là n'est plus celui d'avant. mais aussi par la conjoncture, par l'histoire. Moi, j'ai l'impression, avant, pour moi, l'histoire, c'était passé. Quand je parlais d'histoire, je pensais à mes grands-parents, la guerre 14-18, mes parents, la Seconde Guerre mondiale, mon père, la guerre d'Algérie, et je me croyais totalement protégée de ça. Je me disais, ça, c'était avant, ça fait partie du passé, l'histoire est passée. Aujourd'hui, j'ai l'impression que je marche dans l'histoire, que nous marchons dans l'histoire, que nous sommes contemporains de notre propre histoire, que nous sommes contemporains. Je n'aime pas dire le mot guerre, puisque nous ne sommes pas armés, nous tous, nous n'avons pas d'armes dans les poches. Mais finalement, oui, il y a quand même cet état d'urgence. Oui, on les voit, ces militaires, on les voit, ces fusils. On sait qu'il y a quelque chose qui s'est rompu. On sait que l'avenir est plus qu'incertain, que nous en avons peur. Et justement, l'amour est la seule réponse à ça. Sans être une évangéliste illuminée, hallucinée, mais moi, j'essaye d'y croire et j'essaye de l'appliquer. Je crois beaucoup en la bienveillance de proximité. Je crois beaucoup aux petits gestes quotidiens dans la rue, dans son quartier, dans son immeuble. Je ne dis pas qu'il faille faire des grandes choses. Nous ne sommes pas des hommes politiques. Ce n'est pas du tout notre rôle. Mais nous devons réintégrer notre devoir, nos devoirs de citoyens, quitter notre individualité. Et quand je parle d'un livre d'amour et de résistance, certes, c'est une histoire amoureuse qui s'achève, mais c'est aussi un livre qui est un message sur l'amour en général. Pour moi, c'était très important et c'est pour ça que j'en parle toujours beaucoup. Parce que justement, il a été écrit pendant les attentats et parce que justement, c'était ma seule façon de répondre à la barbarie qui était si proche de moi.
Oui, je pense que ces événements ont beaucoup marqué des couples qui se sont faits à ce moment-là ou qui se sont défaits à ce moment-là. Ça a été quelque chose de très, très important.
Oui, il y a eu une urgence tout d'un coup. Moi, je me souviens que pendant justement ce segment-là, temporel, beaucoup d'amis se sont séparés. Beaucoup d'amis se sont rencontrés, beaucoup d'amis se sont retrouvés. Il y a eu une urgence à aimer ou à ne plus aimer. Il y a eu une urgence à vivre. Et l'amour, voilà, tout d'un coup, est apparu non pas comme un divertissement ou une réponse à l'ennui, mais comme une urgence à retrouver son humanité, vital, oui. Puisque nous étions dans la sauvagerie.
Oui, c'est ça. Alors, étant donné l'importance justement de l'amour et de cette histoire d'amour, on peut quand même être choqué du fait que cette Adriane, qu'on ne va pas accabler, mais qui quand même rompt par un SMS. Voilà, qu'est-ce que vous avez voulu montrer? Est-ce que justement c'est parce que par les moyens contemporains, bah, finalement on peut se débarrasser d'une terrible corvée, effectivement, enfin, c'est très difficile à vivre aussi d'être celui qui a un nouvel amour et qui est encore très très attaché à un.
Mais enfin, Adriane, c'est pas du tout le personnage du salaud. Je voulais pas du tout le bourreau, la victime, le garçon méchant, la pauvre fille accablée. C'était pas du tout ça l'idée. C'était juste qu'Adriane représente nos petites lâchetés personnelles. Je défie quiconque de ne pas avoir menti un jour dans sa vie. Je défie quiconque ne pas avoir envoyé un jour un SMS parce qu'il avait trop peur de faire mal. Parce que c'est vrai que c'est pas bien. C'est vrai que c'est brutal, violent, cruel. C'est vrai que le coup de fil d'Adriane qui essaye d'expliquer pourquoi il a rencontré quelqu'un, mais qu'il y a encore de l'amour. Mais tout ça, ce sont les petites lâchetés des couples amoureux. Il n'y a pas de jugement de ma part. Il y a juste, oui, aujourd'hui, ce sont parfois des SMS... qui permettent d'avouer une vérité qu'on n'arrive pas à avouer. Mais il se rattrape après. Moi, je voulais qu'Adriane soit quand même un personnage assez attachant. Il est maladroit, il manque de psychologie, mais on l'est tous, finalement. C'est très difficile quand on aime encore quelqu'un, puisqu'on aime toujours quelqu'un quand on se sépare, mais quand on a rencontré quelqu'un, on a toujours une part d'affection, une part de tendresse. Je parle des grandes amours. Et c'est difficile de dire à quelqu'un... j'ai rencontré quelqu'un. C'est un défi insurmontable. Et peut-être qu'on mesure son courage ou sa lâcheté. Mais moi, je ne juge pas du tout. Adriane fait partie de nos petites lâchetés à tous, je crois.
Oui. Et on peut se demander justement si les rôles ne seraient pas interchangeables, plus ou moins interchangeables.
Bien sûr, complètement. Et c'était volontaire. Et c'est pour ça qu'A, n'a qu'une lettre et pas un prénom, parce que je voulais le plus d'universalité possible. Je voulais que personne soit à la porte de ce roman-là, parce que je sais que combien, souvent, les gens quittaient ou qui ont des amis quittés me disaient « Est-ce que je peux offrir ce roman ? Est-ce que c'est pas du cynisme ? Est-ce que c'est pas... » Et j'ai dit non, bien au contraire. Et une fois qu'ils l'ont lu, ils me disent « C'est vrai, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, c'est un roman qui agit comme une lumière, comme moi j'ai dévoré Guibert quand j'étais malheureuse, comme j'ai dévoré Annie Ernaux quand j'étais malheureuse, comme la lecture quand je suis malheureuse peut éclairer justement ma chambre, mais comme la chanson, la variété, elle écoute beaucoup de variété, oui. Elle a sa petite compile à elle, parce que quand on souffre, on a le droit d'avoir aussi un goût un peu
c'est une régression
pour les ritournelles. Parmi mais les oui, autres, mais ouais. C'est bien, et tant mieux, il faut, c'est important. Oui, oui. Et là, ça compile à elle qui, voilà, c'est peut-être pas de la grande musique, mais pour moi, c'est de la grande musique parce qu'elle répare les cœurs, je trouve. Et c'est comme le cinéma, c'est comme, je crois que l'art, tout ce qu'on a dans notre possession pour aller mieux. Moi, quand je ne suis pas très bien, je vais au Louvre et je bombardais de beauté, je vais mieux. Et je crois que l'art sert à ça, que les livres servent à ça.
Alors, vous parlez de films et d'art, et il y a aussi une écriture très visuelle, ouais. dans tous vos romans d'ailleurs, mais dans celui-là donc aussi.
Oui, oui, moi j'étais des maîtres. Alors il y a eu beaucoup la voix de Truffaut ou la voix de Charles Denner dans L'homme qui aimait les femmes qui m'a accompagnée, parce que je suis très sensible aux voix et à la narration, et je voulais une sorte de narration comme ça. Pour Beau Rivage, c'était vraiment il était une fois, je suis quittée. C'était un peu ça, et entraîner mon lecteur. Et c'est vrai que les ambiances, les appartements, la rue, les paysages, la lumière, tout ça est très important pour moi. J'ai une écriture très photographique. Peut-être plus photographique que cinématographique, parce que mes livres sont assez, non pas lents, hein, il se passe quand même des choses, mais ils sont assez psychologiques. Mais en revanche, les ambiances, les couleurs, les matériaux, tout ça, je vois tout. Et justement, quand Sacha, le jeune Sacha, l'espoir arrive, le désir revient, aller à Cargèse, en Corse, manger sur les rochers des oursins, des sardines et les bains de mer, c'était important parce que c'était rapporter la Méditerranée dans mes livres. La mer est toujours dans mes livres,
cher, hein, oui.
Toujours, que ce soit la Manche bretonne ou la Méditerranée d'Algérie, là c'est la Corse. Et tout ça donne, dans des romans qui sont plutôt des romans un peu boîte crânienne, donne de l'image et du mouvement
du corps
et c'est pour moi ça c'est très important parce que quand je construis mes livres je fais beaucoup de dessins, je dessine mes scènes, je les numérote, il y a un travail très graphique avant, il n'y a aucune écriture automatique, tous mes livres sont extrêmement construits en amont, notamment mes mauvaises pensées, on aurait pu penser que c'était un déroulé comme ça mais c'était très très construit avec un conducteur. Et donc, c'est vrai qu'il y a toujours un rapport à l'image, toujours.
Oui, ça se sent. Et on voit, quand on lit le livre, on voit aussi les scènes, les paysages et les personnages. Merci beaucoup.
Merci d'être venus si nombreux. Merci beaucoup.
Voilà, et merci. Vous promets une longue lecture, une bonne lecture.
Une lecture heureuse. Ce n'est pas un livre triste.
Oui,
j'y tiens
oui.
beaucoup.
Oui. Et d'ailleurs, l'amour ne meurt pas, puisque la dernière page, c'est « Il est ». Il est au présent.
Oui, l'amour ne meurt jamais.
C'est ça. Merci encore.
Merci beaucoup. Merci.